Ces 10 commandements sont considérés comme une des choses les plus essentielles du message de la Bible, et en particulier par ceux qui ne pratiquent même plus du tout la religion chrétienne ou juive, pensent que néanmoins il y a une base, un socle indestructible et fondamental que sont les 10 commandements, règles fondamentales de base de fonctionnement de toute la société. Et ainsi, à partir de là, on peut avoir des paroles d'autorité à cause d'une turapa. Certains disent qu'il y a un non catégorique à la peine de mort ou il y a quelques années au service militaire. À cause des 10 commandements aussi, les protestants ont condamné les catholiques avec leurs statues et leurs images, parce qu'il est écrit « Tu ne te feras pas d'image pour te prosterner devant elle ». Mais là, justement, cette polémique du XVIe siècle est intéressante parce que, savez-vous comment les catholiques se sont défendus de cette accusation de transgresser les 10 commandements? Eh bien, ils ont dit, et c'est assez juste, que le problème, c'est que Jésus lui-même a transgressé les 10 commandements et enseigné à le faire, en particulier le commandement du sabbat, puisque le respect du sabbat est l'un des 10 commandements. Or, Jésus a enseigné à transgresser le sabbat. Autrement dit, quand on dit les 10 commandements sont la base fondamentale des commandements intransgressables, eh bien, c'est faux, puisque le Christ lui-même, en transgressant l'un des 10 commandements, a montré rien d'autre que ces 10 commandements n'étaient pas du tout des absolus. Alors, à partir du moment où on en remet un en cause, pourquoi on ne remettrait pas en cause les autres ? Et que finalement, peut-être, il peut y avoir de bonnes raisons parfois d'enlever la vie à quelqu'un. Peut-être il peut y avoir de bonnes raisons de ne pas respecter ses parents. Ou peut-être peut-il y avoir de bonnes raisons même de se prosterner devant une image. En tout cas, cela montre que ces 10 commandements, eh bien oui, ne sont pas des absolus. Il faut certes les considérer avec la plus grande attention et le plus grand respect, cela va de soi, et se dire qu'ils ne sont pas là pour qu'on obéisse à la lettre, mais au moins pour qu'on réfléchisse à ce qu'ils nous disent, et en tout cas qu'ils disent toujours des choses très essentielles. Par exemple, sur la question du sabbat, nous dirons, nous chrétiens, que bien sûr, nous n'avons pas à l'appliquer à la lettre en prenant un jour particulier dans la semaine, mais que néanmoins il est essentiel de trouver dans sa vie des temps pour ne rien faire et des temps pour honorer Dieu. Il est essentiel que nous ayons dans nos existences des moments qui ne seront peut-être pas fixés par le calendrier, mais des moments que nous mettions à part pour trouver plus de sens en agissant moins. Eh bien ça, c'est tout à fait vrai. Alors donc, chacun de ces commandements dit, je crois, quelque chose d'essentiel. La grande question concernant ces 10 commandements, à peu près insolubles, c'est le découpage. Vous avez là, dans le texte de Luther, vous voyez qu'il les a découpés d'une façon curieuse, en séparant en deux le dernier des commandements sur la convoitise, en séparant, je crois, la convoitise de la femme de la convoitise des objets, ce qui est plutôt bien. Mais du coup, Luther n'a pas le découpage que l'on a d'habitude, ce qui n'est pas très grave, mais ce qui est plus intéressant, c'est que pour les Juifs, le prologue des commandements, qui est « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte », ils considèrent que c'est ça le premier commandement. Et ensuite, ils collent ensemble les deux suivants, pour en avoir quand même 10, qui est « Tu n'auras pas d'autre Dieu et tu ne te feras pas d'idole ». En disant ça, c'est la même chose. Donc ça, c'est très intéressant. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Alors la question, c'est est-ce que c'est un commandement? Alors certains disent que bien sûr que non, parce que on ne peut pas forcer quelqu'un à croire en Dieu. Par conséquent, ils considèrent que finalement ce premier commandement n'en est pas un, mais est une parole qui est un petit peu la carte d'identité de Dieu, en quelque sorte, avant qu'il donne 9 commandements. Et c'est ce qui fait que les Juifs ne parlent pas des 10 commandements, mais des 10 paroles. Donc il y a 10 paroles, la première n'étant pas un commandement, c'est une parole, mais qui est essentielle, et viennent ensuite 9 qui sont plutôt des commandements. Mais certains commentateurs juifs, comme Maïmonide, disent « Si, néanmoins, la première parole, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte », est un commandement. » Et je crois qu'il a raison. C'est-à-dire qu'il affirme que croire en Dieu est la première des obligations de l'homme. Parce que si vous ne croyez pas en Dieu, vous croyez en quoi ? En vous-même, la bonne blague. Vous croyez dans quoi ? Dans le diable ? Dans le pouvoir ? Dans la méchanceté ? Dans l'aigreur ? Dans le fatalisme ? Eh bien non, mes enfants, croyez en Dieu. C'est une obligation pour vivre comme un être humain et pour vivre heureux et pour être un élément positif dans le monde. Parce que croire en Dieu, c'est croire que l'on n'est pas soi-même le but de toute chose. Croire en Dieu, c'est croire que notre vie est surplombée par quelque chose qui le dépasse. Croire en Dieu, c'est croire dans l'amour, dans la grâce, dans la paix, dans la vie et dans la joie. Et ça, c'est essentiel pour vivre. Donc oui, croyez en Dieu. C'est d'ailleurs, entre nous, ce que dit Jésus quand on lui demande quels sont les 2 commandements principaux. Il dit, le premier, c'est « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur ». C'est la même chose, on peut dire, mais après tout, comment peut-on commander à quelqu'un d'aimer Dieu ? Eh bien, réponse, je suis d'accord avec Maïmonide, oui, le premier devoir de l'homme, c'est de croire en Dieu. Si vous ne croyez pas en Dieu, vous êtes un animal. Après, bon, on peut nuancer, savoir ce que l'on met derrière le mot de Dieu, ce sera l'objet d'autres réflexions. Alors, les chrétiens, eux, s'y prennent autrement, et c'est assez astucieux. Ils disent que ce « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, libéré de la maison de servitude », n'est pas un des commandements, mais c'est un prologue qui précède les commandements. Et là, c'est très astucieux parce que vous voyez que cette première parole est une parole de grâce. Dieu se présente avant même de donner le moindre commandement, la moindre règle, la moindre condition de quoi que ce soit. Il commence par dire « Je suis moi le Dieu qui te libère », c'est-à-dire que c'est le Dieu de la grâce. Et vous voyez que du coup, les commandements ne sont pas mis comme des conditions d'accès à l'aide de Dieu ou à la libération, mais la libération est première. Et donc, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te libère. Point. Cela étant dit, voilà ce que je t'invite à vivre. Donc, au départ, Dieu est celui qui nous libère. Et l'obéissance au commandement n'est pas une condition de la libération, mais comme une conséquence du fait d'être libéré. Et d'ailleurs, on le voit dans le fait que un bon nombre de commandements sont au futur et pas du tout à l'impératif. Il n'y a pas écrit « tu ne dois pas tuer », mais il y a écrit « tu ne tueras pas ». Et donc c'est au futur et se sont mis, autrement dit, comme des promesses. Si tu crois en moi, si tu sais que moi je suis un Dieu qui t'aime et te libère, je te le promets, tu n'auras pas besoin d'autre Dieu. Tu n'auras pas besoin de tuer ton prochain, ni de le voler, ni de mentir. Et si tu crois en moi, tu n'auras même pas besoin de convoiter quoi que ce soit qui soit à ton prochain. Et c'est ce que l'on voit d'ailleurs dans le plus ancien décor de temple protestant que l'on trouve en France, qui est dans la chapelle du château de Chamerolles, où il y a une représentation des 2 tables de la loi, avec 5 commandements de chaque côté. Et au-dessus des 2 tables, il y a un gros cœur avec écrit dedans « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai libéré ». Et ainsi, effectivement, cette loi est surplombée par cette promesse de l'amour de Dieu et de la grâce absolue. Dans la liturgie chrétienne, nous avons aussi cela avec... Voilà, je bouleversais ma liturgie réformée, donc j'ai un peu de peine à m'y retrouver, mais dans la liturgie habituelle, si vous faites attention, la loi intervient 2 fois. Une fois avant la confession des péchés, et ça c'est le premier usage de la loi, et puis elle réintervient tout à la fin, juste avant la bénédiction, et elle prend alors le nom d'exhortation, où on dit, voilà, maintenant que vous êtes libérés et sauvés, eh bien je vous invite à vivre fraternellement les uns avec les autres. C'est l'usage exhortatif de la loi. ligne de vie donnée à celui qui se sait sauvé et gracié. Cela étant dit, ces 10 commandements, je ne vais pas vous les commenter un par un parce que ce serait fastidieux, juste vous donner quelques façons d'y entrer. Il y a plusieurs manières de les lire. D'abord, il y a la lecture la plus classique, qui est la lecture verticale. On dit donc qu'il y a 2 tables avec 5 commandements sur l'un et 5 commandements sur l'autre. On dit en général que les 5 premiers commandements concernent Dieu et que les 5 derniers commandements sur la 2 tables concernent les relations que l'on a avec les hommes et avec son prochain. Tout cela fonctionne très bien, sauf que le 5e commandement est, alors ne regardez pas le papier de Luther qui est un peu tout mélangé, mais le 5e commandement c'est « Honore ton père et ta mère ». Alors, a priori, c'est plutôt humain, ça. Et donc, la grosse question, c'est de savoir pourquoi le commandement d'honorer son père et sa mère se trouve dans la première table de la loi, c'est-à-dire dans la table concernant Dieu. Alors, certains des rabbins antiques ont dit, bien, c'est parce que le respect des parents a quelque chose de divin. En effet, nous respectons Dieu, nous glorifions Dieu, hein, le mot utilisé là, c'est même rendre gloire, c'est plus qu'honorer, c'est glorifier. On glorifie Dieu parce qu'il est notre Créateur. Et on doit glorifier nos parents parce qu'ils nous ont donné la vie. Autrement dit, le respect que l'on a pour ses parents est un peu de même nature que le respect que l'on a pour Dieu. Bon, ça convainc en partie, mais je crois que je prendrai le problème dans un autre sens. En disant, le fait que ce soit dans la première table de la loi me donne la clé de lecture de ce commandement. Et que ce commandement n'est pas justement un commandement humain qui dirait aux enfants, soyez gentils avec vos parents et soyez polis avec ceux qui vous élèvent, mais qu'il s'agit là d'un commandement spirituel qui justement concerne la foi et qui concerne Dieu. Et j'ai une preuve de cela, c'est que le commandement dit « Glorifie donc ou honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur terre. » Quel rapport ? Si je suis gentil avec mes parents, est-ce que je vivrai moi plus vieux ? Eh bien oui, je le crois, justement parce que cette glorification des parents ne concerne pas forcément les parents en tant que personnes, mais en tant qu'ils sont ceux qui nous ont transmis quelque chose d'essentiel au niveau de la foi, c'est-à-dire il ne faut pas mépriser l'héritage spirituel de ses parents. Et je crois que ça, effectivement, c'est essentiel, parce que ce qui fait l'humanité, c'est la transmission. Les animaux ne transmettent pas, si vous voulez, ils ont tout d'instinct. Ce qui fait l'humanité, c'est la transmission des valeurs, la transmission de la foi, la transmission des convictions, la transmission de ce qui fait l'essence même de l'être humain. Et s'il n'y a pas de transmission, on retombe au niveau animal. Et donc nous devons donner du poids à, je dirais, à cette religion qui était celle de nos parents, en quelque sorte. Et ça, c'est très présent dans la Bible, où Dieu est sans arrêt présenté comme étant le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et c'est en étant dans la généalogie, en étant dans la transmission, que l'homme accomplit son destin véritablement humain. C'est cela d'ailleurs que nous marquons au moment du baptême. Le baptême, c'est une fête de la transmission, où nous disons un enfant, pour qu'il grandisse, il faut lui transmettre. Et donc les parents disent, moi j'ai la foi, je crois en quelque chose, je veux transmettre à cet enfant. Et on met des parrains-marraines pour dire, il est important qu'il y en ait d'autres aussi qui transmettent. Et on fait venir les grands-parents, parce que les grands-parents transmettent. Et donc ce que tu as appris, tu l'enseigneras à tes enfants. Et il n'y a rien de pire que, je dirais, de ne pas transmettre. Alors je sais que, effectivement, parfois, les gens me disent « Ah, je ne suis pas un bon chrétien, je ne vais pas au culte. » Seule question, est-ce que vous avez fait baptiser vos enfants ? Et est-ce que vous les avez envoyés au catéchisme ? Bon, si vous avez fait ça, vous avez fait votre devoir de chrétien. Vous avez transmis, Après, ils en feront ce qu'ils en veulent. Mais vous avez transmis. Ce qui est embêtant, c'est quand on coupe la chaîne. Bon, cela dit, je vous déculpabilise. Le fait d'aller au catéchisme ou de baptiser ses enfants n'est pas la seule manière de transmettre, et tout ne passe pas par l'institution ou par les rites, bien sûr, donc il y a d'autres manières de transmettre, mais en tout cas la question de la transmission est essentielle et c'est fondamental. Sinon, on perd le sens de sa vie, et je crois que c'est dans cette foi justement que l'on peut trouver le secret qui donne la vie et qui donne le bonheur, ainsi que le dit la Bible. Même si on peut se réapproprier à sa manière ce que l'on a reçu, ce qu'il va de soi, mais néanmoins se le réapproprier. Autre façon de lire ces commandements, c'est de voir que dans ce chemin qu'ils nous font suivre, du premier au dixième commandement, on passe par des niveaux très différents. Il y a des commandements qui s'appliquent à des actes, des commandements qui s'appliquent à des paroles, et des commandements qui s'appliquent à des pensées. Si je dis « Je suis l'Éternel ton Dieu », ça c'est au niveau de la pensée. Je crois en Dieu. « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi », c'est encore au niveau de la réflexion. Certes, ça a des conséquences au niveau des actes, de ne pas se prosterner, je ne sais quoi, mais c'est au niveau de la conviction, autrement dit. Ensuite, « Tu ne diras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain », ça c'est au niveau de la parole. C'est-à-dire, effectivement, de ne pas prier Dieu pour n'importe quoi, de ne pas l'associer à des choses qui sont totalement vaines, parce que Dieu est spirituel, et chaque fois que l'on prie Dieu pour quelque chose qui n'est pas de l'ordre du spirituel, c'est-à-dire de l'ordre du divin, eh bien, on fait fausse route et on se trompe. Tu respecteras le jour du sabbat. Ça, c'est au niveau des actes. Ensuite, honore ton père et ta mère. Alors, on peut dire, certes, c'est en esprit, mais là, on peut dire que c'est vraiment au niveau des actes, c'est-à-dire tu vas t'occuper d'eux, quoi, finalement, en quelque sorte. Et ensuite, dans la deuxième table, eh bien, l'ordre est inversé. Alors que dans la première, on est passé de la pensée aux paroles et aux actes, dans la deuxième table, on repasse des actes aux paroles et à la pensée. Tu ne tueras pas. C'est un acte, tu ne feras pas d'adultère, c'est un acte, tu ne pas voler, c'est un acte, tu ne commettras pas de faux témoignages, c'est la parole, et tu ne convoiteras pas, c'est la pensée. Et donc vous voyez qu'il y a deux mouvements différents, deux sens opposés. En ce qui concerne Dieu, il faut commencer par la pensée et la réflexion pour aboutir aux actes chrétiens, alors que pour ce qui est du respect de l'autre, il faut commencer par agir avant même de comprendre. Parce que moi, je vais vous le dire, même si vous ne comprenez pas pourquoi, je vous le dis, ne tuez pas, c'est tout. Et même si vous n'en êtes pas convaincu, ne volez pas, et ne trompez pas, et ne convoitez pas. Et ensuite, donc, on demande au moins de ne pas faire de mal, même si on ne comprend pas, et petit à petit, d'en arriver ensuite à une pensée. Autre lecture plus complexe et qui, moi, m'intéresse plus puisqu'elle est plus compliquée, c'est une lecture qu'on peut appeler une lecture horizontale et qui dit, nous avons deux tables avec 5 et 5. Et finalement, est-ce que par hasard, il n'y aurait pas un rapport entre les commandements 2 à 2, le 1 avec le 5, le 2 avec le 6, etc. Eh bien, ce rapport n'est pas toujours facile à trouver, mais néanmoins, il est toujours très fécond. Parce que cela met en relation « Je suis l'Éternel ton Dieu » avec « Tu ne commettras pas de meurtre ». Alors, quel est le rapport? Alors, certes, cela veut dire, je crois, que, bien sûr, le crime est interdit dans toute société, parce que sinon, la société ne peut pas vivre. Mais cela veut dire que pour le croyant, l'interdiction du crime n'est pas simplement pour respecter la loi ou éviter la prison, mais c'est par un respect infini de l'homme qui a une parcelle de divinité en lui. Et donc, si tu crois en Dieu, tu ne peux pas tuer un être humain qui est à l'image de Dieu. Et que, en fait, le fait de tuer quelqu'un est un manque infini de respect pour ce qui fait qu'un être humain est plus qu'un rat d'égout, c'est-à-dire pour sa dimension spirituelle. justement pour sa dimension spirituelle que nous aimons l'homme, et c'est ça qui fait que le croyant, parce qu'il croit en Dieu, respectera infiniment son prochain, même si a priori il n'est pas aimable. Ensuite, ça met en relation « tu n'auras pas d'autre Dieu que moi avec, tu ne commettras pas d'adultère ». Alors là, c'est très facile. Dans toute la Bible, vous savez, il y a ce jeu sur le fait que la relation de l'homme et de la femme est une image de la relation entre Dieu et l'homme. C'est toute l'histoire du Cantique des Cantiques, que je ne vais pas vous refaire, et du prophète Osée, etc. Et donc, l'infidélité, ce serait de croire qu'on va trouver le bonheur dans une autre relation humaine. Et peut-être, justement, est-ce une forme d'idolâtrie. Vous n'êtes pas très heureux en famille, et vous vous dites « Ah, si j'allais avec telle ou telle fille ou tel garçon, je serais heureux ». Fausse route, le bonheur ne se trouvera pas dans le fait de changer sans arrêt de partenaire. Le bonheur, il se trouve dans le fait de mettre votre confiance en Dieu, qui lui seul est éternellement fidèle. Or, courir toujours après un autre ou une autre, c'est une forme d'idolâtrie. C'est croire qu'il y a une importance infinie pour mon bonheur et pour le sens de ma vie, que je vive avec un tel ou une telle, avec machin ou avec truc. Ça, c'est une erreur fondamentale. Dire « tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain » a-t-il un lien avec « tu ne voleras pas » Oula, ça devient de plus en plus difficile. Alors, certains disent que oui, parce que si jamais tu voles, tu finiras par te faire prendre, et donc un jour, tu vas être obligé de jurer que ce n'est pas toi, alors que c'est faux. Donc, tu vas mentir. Bon, je crois qu'il y a plus intéressant. L'idée, c'est que je crois qu'on peut voler Dieu comme on vole les hommes, c'est-à-dire faire une mauvaise attribution de ce qui revient à l'un ou à l'autre. Et prononcer le nom de l'Éternel Dieu en vain, c'est attribuer à Dieu quelque chose qui ne lui revient pas. Je prie Dieu pour ma bonne santé physique, mais ça ne dépend pas de Dieu. Et donc je commets une sorte de vol, finalement, que je prends de force Dieu pour le mettre là où il ne doit pas être. Je lui vole quelque chose ou je le rends voleur, en quelque sorte. Voler, c'est ne pas comprendre qu'il y a des choses qui appartiennent à l'un et qui appartiennent à l'autre, et que ce qui appartient à l'un n'appartient pas à l'autre. Ce qui m'appartient à l'autre ne m'appartient pas, et tout ne m'appartient pas. Et effectivement, prononcer le nom de l'Éternel Dieu avec justice et non pas en vain, c'est comprendre que tout ne relève pas du nom de Dieu. Il faut éviter de s'emparer, je vous disais, de Dieu pour le mettre n'importe où. Voler sa valeur en Dieu à Dieu en le citant n'importe comment, ça c'est faire un vol à l'égard de Dieu. Et ce qui appartient à Dieu ne doit pas être galvaudé. Et si Dieu est bien à sa place, dans l'essentiel, dans le spirituel, si Dieu est vraiment ma préoccupation ultime, alors le matériel devient même secondaire et je n'ai plus aucune motivation à voler. Comme tout à l'heure, je n'en avais plus à tromper mon conjoint. Et je n'ai plus aucune raison de vouloir absolument ce que je n'ai pas. Ensuite, le respect du sabbat, mis en lien avec l'interdiction du faux témoignage. Alors, là encore, la première explication qui vient, c'est de dire ben, le sabbat, pour les juifs, c'est une façon de témoigner de leur engagement. Ils témoignent de sa foi en respectant le sabbat. Mais il y a plus intéressant. Je vous ai lu la version des 10 commandements dans la version du Deutéronome. Dans l'Exode, il y a une variante précisément sur ce verset. Dans le Deutéronome, il explique qu'il faut respecter le sabbat parce que, dit le texte, tu as été toi esclave en Égypte et aujourd'hui tu es libéré. Alors quel est le rapport? Eh bien le rapport c'est que justement le sabbat, c'est de dire « je ne suis pas esclave du travail, je ne suis pas un esclave, mais j'existe en dehors de mon travail et de ce que je fais. » Or, faire un faux témoignage, c'est emprisonner quelqu'un dans le mensonge. Faire un faux témoignage, c'est emprisonner quelqu'un dans le mensonge parce que le mensonge emprisonne celui qui en est l'objet et qui emprisonne aussi le menteur. Et donc rien n'est plus asservissant que le mensonge. Et ainsi, le sabbat qui est la fête de la liberté et qui est de dire « tu prouveras que tu es libre en toute chose » et donc que tu es capable de te priver de quelque chose. Montre que tu es capable de ne pas travailler pendant un jour. Montre que tu es capable de ne pas fumer pendant un jour. Montre que tu es capable de ne pas faire une chose qui te semble importante pendant un jour. Ce sabbat est simplement l'exercice de la liberté, justement. Or, le mensonge, c'est refuser cette liberté pour s'emprisonner dans une vérité qui n'est pas vraie. Et le mensonge tisse des liens morbides entre celui qui ment et la victime. Or, la foi, c'est la liberté, et c'est la liberté à rapport avec la vérité. C'est ce que dit d'ailleurs Jésus dans l'évangile de Jean, « La vérité vous rendra libre ». Et enfin, le « honore ton père et ta mère » avec « tu ne convoiteras pas ce qui appartient à l'autre ». Là, ça demande encore un autre petit exercice intellectuel. Encore l'explication simple que je vous donne, comme ça vous retiendrez celle-là. Et dans le Midrash de Shirachirim, la tradition juive dit ben, « parce que si tu commets l'adultère, tu vas poser un problème en attribuant à quelqu'un qui n'est pas vrai la paternité de ton enfant. » Voilà, facile, hein ? Et donc, par conséquent, tu ne pourras pas honorer ton père et ta mère parce que tu ne sauras pas qui est ton père et ta mère. Bon, mais c'est pas ça l'intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est que dans ce même Midrash, il continue en disant que si tu passes ton temps à désirer ce qu'a ton voisin, alors ton enfant ne te respectera pas. C'est assez astucieux, et cela montre donc qu'il ne s'agit pas d'une punition, mais d'une conséquence. Si tu dis toi toujours que ton voisin a mieux réussi que toi, ton fils va dire, bah, écoute, mon papa il n'est pas bon, mon voisin est beaucoup mieux. Et donc finalement, ton enfant va te mépriser, parce que toi-même, tu te mépriseras en considérant que ce qu'a l'autre est enviable. Et se respecter soi-même, c'est être en mesure d'être respecté par les générations futures. Savoir que l'on a l'essentiel, c'est ça, ne pas convoiter, c'est dire je sais que je n'ai pas ça, mais ça ne me dérange pas, j'ai tout ce qu'il me faut et je suis heureux avec ma propre vie. Dire ça, c'est dire qu'on a l'essentiel. Et c'est donner un témoignage important à ses enfants, que finalement, l'essentiel est à la portée de tout le monde. Et que par conséquent, même mon père, qui n'avait pas tout, il ne désirait pas ce qu'avait le voisin, parce qu'il avait l'essentiel qui le rendait heureux. Or, quel est l'essentiel ? L'essentiel qui rend heureux, ce n'est pas le voisin qui l'a. C'est quelque chose qui vous est offert gratuitement. C'est simplement d'être dans la joie d'aimer et de servir. Si vous savez cela, vous êtes heureux, dit Jésus, pourvu que vous le mettiez en pratique. Et donc, vous n'avez rien à désirer. Si vous êtes dans la convoitise, c'est que vous n'avez pas compris ça. Et je comprendrai que vos enfants vous méprisent. Parce que, en effet, le meilleur témoignage que l'on puisse donner à ses enfants pour être soi-même respecté, c'est de leur dire, vous savez, mes enfants, j'ai peut-être rien, j'ai peut-être peu, je n'ai peut-être pas ce qu'ont les autres, mais j'ai l'essentiel et je suis heureux de ce que j'ai parce que la seule joie et le seul sens de ma vie, c'est d'aimer, de servir, de partager, d'accueillir et de donner. Alors que si on se place sur le plan matériel, alors oui, on peut toujours être méprisé par ses enfants parce qu'il y aura toujours un plus riche que vous. Et puis enfin, respecter ses parents, on le fait parce qu'ils nous ont donné la vie, on respecte ses parents. Respecter ses parents, c'est respecter finalement aussi soi-même. Honorer ses parents, c'est respecter sa propre vie et croire que sa propre vie a un sens. Et plus on respecte ses parents, peut-être, plus on aime sa vie et moins on envie celle des autres. Donc vous voyez qu'il y a un lien très fort entre justement le respect, l'honorer son père et sa mère et de ne pas convoiter. Et donc voyez-vous, ces 10 commandements, qui mériteraient chacun au moins plusieurs prédications, sont une merveille de chemin qui nous mène du premier mot au dernier mot. Le premier mot, c'est « je ». Et le dernier mot des commandements, des 10 commandements, c'est « l'autre, ton prochain ». Et donc c'est tout un chemin qui nous fait passer de « je » à l'autre, de « moi » à l'autre, en passant par les pensées, les paroles, les actes, les paroles, les pensées, et en passant évidemment par Dieu lui-même, et qui nous indique ainsi un chemin de vie. Et ces 10 paroles, oui, sont certainement essentielles, et je crois que les Juifs ont raison de dire que ce ne sont pas 10 commandements, comme s'il y avait là des règles à appliquer, mais ces 10 paroles, 10 paroles de vie, et qui restent, je crois, les plus fondamentales de toute l'humanité. C'est un chemin de vie, un chemin d'amour vers l'autre et vers Dieu. Amen.